un artiste rencontre un autre artiste, qu'est-ce qu'il se raconte ? Des histoires d'artistes. Et si l'art était au fond une histoire de couple, une histoire de rencontre, de fusion et de séparation ? C'est la perspective intimiste adoptée par le Centre Pompidou-Metz pour raconter l'histoire de l'art de 1900 à 1950. Raconter les grandes œuvres et les grands courants à travers les yeux de l'amour. Un amour esthétique, passionnel, aux élans destructeurs ou fédérateurs, faisant du tandem de créateur et de son mode de vie un projet artistique en soi. Ainsi, l'exposition Couple moderne exhibe la question épineuse du ménage d'artistes, fait de passion fertile, de rivalité et de domination. Puis nous continuerons à parler d'art, mais cette fois-ci de photos en compagnie de Laura Hainaut, qui présente actuellement son exposition Rédemption aux rencontres de la photographie à Arles. Le 22 juin dernier, nous étions au Centre Pompidou-Metz, dans les salles immenses de l'exposition Couple moderne 1900-1950. La directrice et commissaire Emma Lavigne était là pour nous guider dans le dédale artistique et amoureux des couples de la première moitié du XXe siècle. Emma Lavigne, bonjour.
Bonjour.
On est à l'entrée de cette exposition Couple moderne 1900-1950. Et là, quand on arrive, c'est une entrée en musique.
Tout à fait, on arrive dans la première section de l'exposition Couple moderne qui rassemble 40 couples de créateurs. Et la première section de cette vaste exposition de près de 2000 m² est consacrée à un couple qui a été oublié pendant longtemps, Lavinia Schulz et Walter Holt, un couple de chorégraphes qui ont inventé leur propre théâtre en dehors de tous les courants de l'histoire de l'art ou de l'histoire du théâtre.
Alors c'est l'histoire de la fusion ou parfois de la confusion entre le couple comme motif artistique et le couple comme projet de vie. C'est aussi l'histoire du couple comme un projet artistique en lui-même.
Le couple, d'un point de vue de sa définition, c'est vrai que c'est une cellule extrêmement malléable, extrêmement souple. Nous avons voulu avoir 40 artistes, 40 couples d'artistes, dont 80 artistes dans l'exposition, pour montrer en fait qu'il n'y a pas un modèle préétabli, que la société moderne est très libre, même dans ce qu'elle peut autoriser. On voit cette période comme la reproduction de modèles très conventionnels, mais en fait, le couple est une matrice qui va prendre toutes sortes de configurations. On parle donc de couple, de duo, mais on parle à certains moments de trouple, de couple à trois. On va, par exemple, il y a des communautés d'artistes. Alors là, on parle même de polyamour. Mais à chaque fois, c'est de comprendre comment, combien la créativité partagée, même si chacun peut avoir son jardin secret et des zones de création spécifiques, combien ces couples d'artistes ont fait du couple un lieu d'expérimentation. Et donc, au sein de la création, il y a cette espèce de tension entre un désir d'aller encore plus loin à deux. Nous sommes, par exemple, ici dans la salle consacrée à Robert et Sonia Delaunay. Sonia Delaunay l'exprime dans le titre de son autobiographie. Nous irons jusqu'au soleil. Il y a cette conviction qu'à deux, l'art est au plus près de la vie et quelles que soient les turbulences du monde, de cette période 1900-1950 traversée par deux guerres et une révolution en Russie, l'art peut véritablement aller encore plus loin. Mais le plus loin va dans le sens de la création et parfois dans certains couples, dans le champ de la destruction également.
L'histoire du XXe siècle, de cette première moitié du XXe siècle que vous avez choisi, c'est aussi l'émancipation de l'identité, du jeu de l'identité individuelle. Alors là, en ce qui concerne les Delaunay, c'est cette histoire de fusion que vous racontez.
Alors Sonia Delaunay, déjà, s'appelait Sonia Terk. C'est une artiste russe à la base et comme ses consoeurs qui sont aussi présentées dans l'exposition, on peut citer notamment Natalia Goncharova, Varvana Stepanova. Elle est passionnée par l'idée que l'art doit infiltrer tous les champs de la société et de la vie quotidienne, aussi bien les arts appliqués, la mode. Donc dans cette grande section, on a des chefs-d'œuvre de Sonia Delaunay qui dialogue avec ceux de Robert Delaunay, mais on montre aussi toutes les créations textiles que Sonia Delaunay a voulu faire, pas uniquement parce qu'elle était une femme et qu'elle devait être cantonnée aux travaux d'aiguille, mais parce qu'elle voulait aussi être une sorte de Coco Chanel de la modernité, faire ses propres robes pour aller danser au balbulier. Et elle synthétise un petit peu leur relation en disant « Nous nous sommes aimés dans l'art comme d'autres couples se sont unis dans la foi, dans le crime, dans l'alcool, dans l'ambition politique. La passion de peindre a été notre lien principal. Cela se confondait avec l'amour de la vie. »
Et là, on comprend... voit que c'est presque, un projet amoureux que d'être dans un projet artistique complet, total, avec tous les supports.
Complètement. On peut parler d'un autre couple qui a une salle importante parce que nous sommes près de Strasbourg où il y a la magnifique salle du ciné-dancing de l'Aubette. On a d'ailleurs reconstitué la salle du café du ciné-dancing de l'Aubette qui a été réalisée par Sophie Teuber et son mari Hans Harp, un couple tout à fait extraordinaire où là, ils vont véritablement souhaiter fusionner leur création. Et on a des œuvres comme cette très belle œuvre de tapisserie qui s'appelle Symétrie pathétique, où tous les deux viennent conjuguer leur langage plastique, des formes plus élémentaires, plus géométriques chez donc Sophie Teuber et des formes plus rondes, plus organiques. Et Hans Harp lui-même veut s'emparer de la tapisserie qui était considérée même dans cette première moitié du XXe siècle, même dans les cercles les plus évolués, comme ce qui devait être du ressort des femmes. Pensons par exemple qu'au Bauhaus, une artiste présente dans l'exposition Annie Albers souhaitait être architecte, mais on l'a orientée vers la création textile. Donc même au Bauhaus, qui était cette école de la construction fondée en 1919 par Gropius, le foyer de la modernité, les femmes n'avaient pas accès à tous les genres.
Alors, c'est le jeu sur les frontières que l'on observe dans l'exposition, mais on voit aussi à quel point l'art peut être lui-même très conventionnel, très conservateur. On peut retrouver aussi ces résurgences de l'image de la muse, de la femme soumise finalement à l'artiste.
Alors nous, dans l'exposition, on a voulu justement sortir les femmes du rôle de muse. On a beaucoup... La femme, notamment dans le surréalisme, est celle qui ouvre les portes de l'inconscient. Ces espèces de femmes magnifiques comme Nuge, comme Jacqueline Lamba, la fameuse Ondine, surnommée par Breton. Il faut savoir qu'au départ, pour vivre et gagner sa vie, elle danse et nage nue dans un immense aquarium. Donc c'est des choses qui sont en même temps terribles parce que elle est déjà très cultivée, elle se sent déjà une artiste. Donc il y a aussi des conditions économiques difficiles, mais on n'a pas voulu montrer des femmes qui ne sont que des muses. On a des femmes qui sont des créatrices. On a des femmes, on a des couples de femmes, des couples d'hommes. C'est pas une exposition sur la question du genre, mais il s'agit, et c'est un des enjeux centraux de cette exposition, de vraiment mettre en avant des femmes que l'histoire a pu oublier, comme Benedetta Cappa, qui est la femme un peu passée sous silence de Marinetti, l'inventeur des mots en liberté et du futurisme. Elle a eu un rôle décisif, elle a participé même à l'orientation du futurisme, à un moment un peu complexe où le futurisme était un soutien un peu trop affiché du fascisme de Mussolini. Elle a orienté le futurisme dans la voie du sensible en participant à l'invention d'un mouvement qui fait partie du futurisme qui s'appelle le tactilisme. Et pourtant, Marinetti, qui était fou amoureux de sa femme, elle était l'élève de l'artiste Balla, il lui disait « tu dois créer pour toi, tu dois créer pour moi, tu dois créer pour nous ». Il l'encourager à développer son propre génie, et pourtant il a passé sous silence le rôle de sa femme dans l'invention de ce mouvement. Il a mis 17 ans à reconnaître l'importance de sa femme à ses côtés pour inventer certains mouvements que l'histoire de l'art a oubliés. D'autres artistes, comme les artistes russes, Varvana Stepanova, là les femmes en Russie ont bénéficié de l'onde de choc, donc des prémices révolutionnaires des 1905, et la société russe après la révolution de 1917 va voler en éclats. Le mariage est considéré comme quelque chose d'éminemment bourgeois. Les femmes ont le droit d'étudier, d'enseigner, ont accès à tous les métiers. Elles ont le droit d'avorter, donc ça les libère aussi pour certaines d'entre elles qui souhaitent consacrer leur vie à la création. Et c'est très 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 beau de voir justement ce dialogue entre Rodchenko et Stepanova, un couple d'artistes engagés dans le dépassement de la peinture de chevalet pour aller vers d'autres formes, la théâtralité, les costumes, les arts appliqués. Et Rodchenko fait aussi bien des services de table que Stepanova peut faire des grandes mises en scène dans le champ du théâtre. Donc les rôles véritablement se redéfinissent en fonction du contexte politique du pays.
Malavi, on voit que c'est à la fois la question de ce que le couple fait à l'art en tant que justement que sujet en lui-même, mais c'est aussi ce que l'art fait au couple et comment l'art peut être une manière de vivre son amour, même une structure en soi. Dans cette exposition, vous travaillez sur beaucoup de supports, des supports tissus, des supports peints, des photos, des sculptures. Il y a aussi des matériaux sonores et visuels. Et il y a ces lettres, ces correspondances qui sont au cœur plutôt d'un motif littéraire du couple.
Oui, tout à fait. Les correspondances, même si elles ne sont pas toutes exposées, mais ont été tout à fait centrales pour comprendre que c'est dans ces correspondances très intimes, finalement, que la relation à deux, on peut l'appréhender. Parce que l'idée de cette exposition, c'est aussi de s'affranchir des grands mouvements d'histoire de l'art, de voir comment certains artistes bifurquent de la grande histoire. Et il y a des choses tout à fait bouleversantes, notamment dans la salle qui est consacrée à la sécession viennoise. Donc on a plusieurs couples. On a notamment le couple formé par Alma Mahler, Alma Schindler, qui va épouser Mahler, Gustav Mahler. Et Gustave lui dit, elle est musicienne, elle a étudié avec Zemlinsky, elle compose elle-même des leaders. Et Gustave Mahler lui dit, ne crois-tu pas pouvoir renoncer un moment à une partie de ton œuvre, hein, ton œuvre musicale, pour épouser ma musique et m'épouser? C'est-à-dire que le marché est clair. Une femme, dans le contexte même émancipée de la sécession viennoise, ne peut pas exister en tant qu'artiste. Le génie s'inscrit et s'écrit au masculin. Il n'y a que Mahler qui peut être le génie, et Alma Mahler va donc sacrifier sa musique pour épouser Mahler qu'elle admire. Et donc on a vraiment parfois des conflits au sein même de la création, et certaines lettres sont bouleversantes parce qu'on comprend tout ce que ça veut dire pour aussi une femme de cette époque qui va épouser un génie comme Mahler. Certaines s'en sortent beaucoup mieux, comme Émilie Fleugueux, qui était la maîtresse et l'amie, la confidente de Gustav Klimt. Gustav Klimt a eu beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup de maîtresses. Et dans l'exposition, on peut voir cette correspondance. On a mis quelques lettres d'amour adressées à Émilie Fleugueux, qui est peu connue en France, mais qui était la Coco Chanel viennoise. C'est une femme qui n'a jamais voulu se marier, qui semble ne jamais avoir souffert des incartades amoureuses de Klimt, qui est certainement au cœur de la représentation du célèbre baiser. Et Klimt, quand il n'était pas avec elle, lui écrivait une carte postale par jour. Donc il y a des centaines de lettres que Klimt a adressées à Émilie Fleugueux qui permettent de comprendre que leur amour, puis leur amitié amoureuse, elle est très forte parce qu'elle est réunie par l'idée que eux deux, en dialogue, en résonance, participent de la réinvention de l'art et de la création. Et donc ça devient un lien évidemment très, très, très fort.
Alors ce prisme du couple, c'est aussi une manière d'intriquer la question de la biographie avec celle de la création et de l'intriquer à travers des jeux de tension. Finalement, on retrouve l'idée du duo et du duel amoureux à travers les idées de domination entre couples artistes, entre eux dans le même couple. La question de la musique, finalement, est la même que la question de la peinture.
On a en effet des duos qui deviennent des duels, voire des mises à mort symboliques de l'autre. Quand, je dirais, il n'y a pas d'hybridation possible, ou quand chacun n'arrive pas à conserver son propre espace. Et à ce titre, le couple formé par Picasso avec Dora Maar est tout à fait symptomatique. On voit la fascination de Picasso qui découvre la belle Dora Maar à travers une très très jolie photo prise par Man Ray qui est dans l'exposition. Il tombe presque amoureux de ce visage qui est reproduit par Man Ray. Elle est à l'époque, quand elle rencontre Picasso, une poétesse, une activiste politique extrêmement engagée pour la cause de la République espagnole. Elle a été la maîtresse de Georges Bataille, donc elle a un univers à elle et elle est surtout une très talentueuse photographe avec, on a quelques chefs-d'œuvre de Dora Maar. Ces photos ouvrent la porte à l'inconscient, mais à un imaginaire d'un onirisme assez exceptionnel. Et en fait, cette relation avec Picasso est à la fois dans les processus de création. On sait combien c'est ces photos qui aident Picasso à construire Guernica. Il y a cette très belle expo au musée Picasso actuellement. Mais au-delà de ça, Picasso, qui au moment de la guerre d'Espagne est enfermé dans son atelier des Grands Augustins, a tendance à emprisonner cette Dora Maar dans son atelier, n'arrête pas de la photographier. Et dans cette section, il y a 40 sections qui sont comme des chambres ou des appartements partagés. On voit la photo que prend Dora Maar où dans le studio, il y a des dizaines de portraits d'elle-même. Donc elle prend son image prise au piège de l'œil photographique de l'œil de Picasso. Et on voit que Picasso lui prend son médium et l'encourage à devenir peintre. Et elle fait du sous-Picasso et sombre progressivement dans le mutisme. Et elle n'arrive même plus à créer à la fin de sa vie. Donc il y a une mise à mort, c'est une sorte de scène de tauromachie dans ce cas-là, où Picasso va tuer la créativité de celle qui a aussi été sa muse.
Alors vous faites allusion aux espaces, aux appartements. La question de l'espace et de l'espace intime, de l'espace du couple, de la maison, de l'appartement, mais aussi de l'atelier de l'artiste, elle est posée de plusieurs manières dans l'exposition, puisqu'on a des maisons, des lieux qui apparaissent sous forme de maquettes, sous forme de photos.
Tout à fait. Donc après la première section de l'exposition qui était consacrée au rythme en liberté, dans la danse, dans la peinture, dans le théâtre, comment la pulsation de la modernité génère d'autres formes. La deuxième section est consacrée à l'espace partagé, comment on arrive à partager donc soit un atelier, c'est le cas de Viera da Silva et Arpad Senés, ou carrément de Frida Kahlo et Diego Rivera, où chacun font construire un atelier à Joan Ogo Gorman, un architecte moderniste influencé par Le Corbusier, et on voit que chacun a son propre atelier rattaché par une petite passerelle. Pour d'autres, comme les Hims...
Peut-être le décrire cet atelier parce qu'il est assez incroyable.
Alors nous avons
dans l'extérieur de cactus.
Voilà, nous avons, on connaît la célèbre maison bleue de Frida Kahlo à Coyoacán, en dehors de Mexico, où c'est vraiment la maison traditionnelle mexicaine au sein de laquelle elle vivait avec sa famille, entourée d'animaux, de plantes. Mais ces deux artistes qui sont rattachés l'un à l'autre par une sorte de cordon ombilical et une quête de modernité qui va de pair avec la révolution mexicaine, souhaitent avoir chacun véritablement un atelier spécifique et un atelier dans le style de l'architecture de Le Corbusier. Et Ces deux ateliers sont rattachés par une toute petite passerelle. Alors on a parfois du mal quand on pense que Frida Kahlo a passé beaucoup de temps soit sur un fauteuil roulant, soit immobilisée dans son lit, à faire de nombreuses visites à Diego Rivera. Mais c'est ce lien absolument indestructible qui les relie. Chacun a vraiment son univers, il n'y a pas d'influence à proprement parler entre leurs deux œuvres, mais cette conscience que l'art a une portée révolutionnaire et évidemment de la révolution mexicaine. Nous sommes dans la section l'amour réinventé, donc qui traite de l'invention des chimères, un univers nourri par le surréalisme avec Max Ernst, Leonora Carrington, Dorothea Tanning, mais aussi Claude Quin et Suzanne Malherbe, Dora Maar et Picasso.
Alors petite parenthèse, Emma Lavigne, on est dans cette partie nature illuminée de l'exposition. L'une des thématiques de l'exposition est autour, en tout cas, de cette question-là. De la nature. Alors la nature, c'est aussi la nature surréaliste, c'est la nature de l'imaginaire.
Ce que l'on a en dernière section de l'exposition, c'est la thématique en effet de la nature illuminée, avec déjà le dialogue de George O'Keeffe et Alfred Stieglitz. Lui peint ses cieux remplis de nuages, pendant que elle incarne pour lui l'artiste véritablement qui représente les valeurs de la nature américaine. Et donc il est fou amoureux de cette femme qu'il va photographier nue sous toutes les coutures. Et ce panthéisme qui est sous-jacent à l'œuvre de Georgia O'Keeffe est bien réel, mais elle va progressivement s'échapper de la lecture uniquement sexuelle et sensuelle que Stieglitz va avoir de l'œuvre de sa compagne. Et progressivement, ce couple va se déliter. Elle va quitter New York et cette relation pour ensuite poursuivre sa vie en solo à Santa Fe, dans un ranch où elle va laisser libre cours à la peinture d'une nature infinie qui capte la beauté des paysages du désert américain.
C'est un des parcours de femmes que l'on retrouve, c'est celui du modèle qui devient artiste.
Alors Georgia O'Keeffe était déjà une artiste déjà très accomplie, mais pas du tout connue. Donc Stieglitz va à la fois la dénuder, s'en servir de modèle, mais aussi la révéler en tant qu'artiste. Il avait vraiment une admiration immense pour le travail de Georgia O'Keeffe. Certaines femmes dans cette section sur la nature illuminée, comme Marianne van Werefkind, qui est une artiste extraordinaire, complètement méconnue en France, a été la compagne de Jaolinsky. Et alors qu'elle est considérée, elle est russe d'origine, comme le Rembrandt russe au féminin, elle va même aller jusqu'à abandonner la peinture pendant 10 ans pour se consacrer au talent de son mari. Cette relation est très douloureuse vu que Jaolinsky va se servir de leur bonne comme de modèle, puis de modèle la bonne va devenir vraiment sa compagne, puis la mère de son enfant et sa femme. Et là, Marianne van Werefkind progressivement va reprendre les pinceaux, va se remettre à créer, va accepter ce ménage à trois très douloureux, puis va ensuite, à partir de 1921, poursuivre sa carrière comme Georgia O'Keeffe en solo. Donc le couple peut correspondre à un moment de la maturation du travail de l'artiste, mais parfois ces couples se délitent pour que chaque artiste reprenne une voie plus individuelle.
Emma Lavigne, il y a aussi des parcours de peintres, comme celui de Max Ernst, peintre, sculpteur, surréaliste, pour lesquels il y a plusieurs couples. Lui est toujours le même, mais il y a plusieurs femmes qui se succèdent.
C'est vrai que dans le cas de Max Ernst, on aurait presque pu faire une exposition Max Ernst et les femmes. Il faut savoir que même si c'est un homme qui a eu plusieurs aventures amoureuses avec des femmes, comme notamment Gala, qui à l'époque était la femme de Paul Éluard, son ami, avant de devenir celle de Dali, donc c'est un véritable roman russe, Max Ernst a eu en quête de rencontrer l'âme sœur, son alter ego, une femme, qui soit une artiste, a l'imaginaire aussi débridé que le sien. Et ça va se produire quand il va rencontrer en 1937 une artiste anglaise, beaucoup plus jeune que lui, Leonora Carrington. Elle avait découvert l'œuvre de Max Ernst lors d'une exposition sur le surréalisme à Londres et elle a énormément aimé l'œuvre avant d'aimer l'homme. Ils se rencontrent, Max Ernst est pourtant déjà marié, et ils vont s'échapper du mouvement du surréalisme, fuir et échapper au grief de la femme de Max Ernst. Ils vont s'installer dans un petit village à Saint-Martin d'Ardèche. Et là, comme le dit Leonora Carrington, Max Ernst va ouvrir toutes sortes de mondes pour moi. Elle est pourtant la mariée du vent qu'il dessine dans énormément de tableaux depuis 10 ans. Donc il a eu la prémonition d'aller rencontrer une femme qu'il représente sous forme d'un cheval ailé. Et quand il rencontre Leonora Carrington, c'est une sorte de coïncidence, de hasard, de rencontre exceptionnelle. Elle n'a qu'un motif, c'est justement de peindre des chevaux ailés. Donc il a véritablement cette sensation très forte que c'est la femme de sa vie, que c'est l'artiste qui l'attend depuis toujours. Leur histoire d'amour et de création, parce qu'on montre combien ils vont parfois créer à quatre mains et décorer toute leur maison de Saint-Martin d'Ardèche. On a de façon exceptionnelle les portes de placard, les portes de la maison qui sont peintes, et puis un grand chef-d'œuvre qui nous vient du musée Peggy Guggenheim à Venise, la toilette de la mariée, où l'on voit véritablement un corps de femme très allongé, un peu dans l'esprit de la peinture de Cranach, recouvert d'un manteau de plumes assez angoissant. Et l'on voit qu'il y a une sorte de menace qui est représentée par un homme, moitié homme, moitié oiseau. Est-ce l'alter ego de Max Ernst qui aimait se représenter sous les traits de l'oiseau Lop-Lop, est-ce le dieu Thoth? En tout cas, on sent vraiment une menace. Cette menace, c'est celle de l'Europe traversée par la guerre, et leur histoire d'amour et de création va être arrêtée. Max Ernst est un citoyen allemand, il va être interné au camp d'Émile, et Leonora Carrington se retrouve toute seule dans cette maison peinte et recouverte de leurs chimères, et elle va faire un voyage qui va l'emmener aux confins de la folie, et leur histoire d'amour va s'arrêter avant que, d'une certaine façon, Max Ernst prolonge cette histoire d'amour et de création avec une autre artiste du surréalisme, Dorothea Tanning.
Alors, à travers la question du couple, et de creuser aussi la question des structures familiales et aussi des structures artistiques, collectives ou non, de la question du mouvement, du courant artistique, il est question aussi du Bloomsbury Group dans cette exposition, Emma Lavigne.
Alors le Bloomsbury Group nous amène dans la question de ce qu'on a appelé polyamour, parce que en fait ce groupe anglais naît de autour de deux sœurs, Virginia Woolf et Vanessa Bell, qui épouse Clive Bell, qui est donc une peintre. Clive Bell est un passionné de peinture, et donc ils vont s'installer au moment de la Première Guerre mondiale dans le manoir de Charleston. Et entre-temps, Vanessa Bell a eu un autre amant, Roger Fry, qui a été aussi un très grand théoricien de la peinture et qui a permis aux sources de la peinture en France d'être accessible pour les peintres anglais. Et puis, une histoire peu commune, elle va tomber très amoureuse d'un autre peintre qui s'appelle Duncan Grant, pardon. Elle va tomber très amoureuse d'un autre peintre, Duncan Grant, qui est un peintre homosexuel, voire bisexuel, avec lequel elle va avoir une fille. Et Duncan Grant va venir au manoir comme objecteur de conscience pendant la Première Guerre mondiale, avec son amant également. Donc on se rend compte que Vanessa Bell et Duncan Grant sont reliés par un amour immense, par l'enfant qu'ils ont eu ensemble, et puis surtout par la nécessité intérieure et absolue de travailler à proximité, de se nourrir en permanence de l'univers de l'autre. Donc c'est une relation d'amour et de création qui donne naissance à une communauté absolument incroyable, où même la notion d'identité familiale, maritale a complètement explosé. Toutes les limites sont repoussées. C'est tout à fait extraordinaire dans le contexte de la société anglaise très puritaine, de voir ce qu'on appellerait aujourd'hui une famille ou une tribu composite, mais
pas
qui reste
exclusivement d'artistes d'ailleurs, hein. John Maynard Keynes en fera partie aussi à certains moments.
Tout à fait. Keynes va y écrire donc certains des livres les plus importants de l'économie de cette période, critique d'art, évidemment la littérature autour de la sœur de Vanessa Bell, Virginia Woolf. Donc, mais toute cette communauté finalement est restée soudée autour des différents couples qui se sont ensuite transformés en relations amicales que Vanessa Bell a pu avoir l'intelligence de maintenir autour d'elle pour maintenir cette cohésion et cette effervescence finalement de cette communauté. On peut définir le couple finalement comme la plus petite des communautés, c'est-à-dire qu'à deux, on est potentiellement une petite communauté et l'individu, l'artiste seul dans sa tour d'ivoire, vient s'élargir de l'univers d'un autre.
Alors c'est la question aussi de la porosité entre les arts, entre les supports. Ici, il s'agit de musique, d'architecture, mais aussi de design. Vous avez choisi d'ouvrir le champ très large, qui est aussi le champ du XXe siècle, qui s'ouvre.
La question, en effet, de l'ouverture de la modernité, elle est centrale parce que cette exposition ambitionne aussi une forme de relecture de l'histoire de l'art moderne, non plus uniquement que dans le champ de la peinture et des arts visuels, mais montrer que la définition même d'œuvre d'art est en train de se redéfinir. Alors, dans l'héritage de certains pionniers qui ont fait la transition entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, que sont bien sûr Mallarmé ou Eric Satie dans le champ de la musique. Donc on voit bien aussi avec Duchamp qui est représenté dans cette exposition à travers le couple qu'il forme avec Maria Martins que Duchamp va aussi bien inventer le ready-made que tout à coup prendre des cours de moulage sur le corps humain pour venir sculpter, mouler au mieux le corps de Maria Martins, cette artiste brésilienne dont il est fou. Et donc on voit bien que l'amour le fait bifurquer et complètement changer de technique. Donc l'autre a cette capacité de vous emmener ailleurs, de vous emmener plus loin, de rapprocher l'art au plus près de la vie et de la passion amoureuse, en faisant fi de toutes les théories de l'histoire de l'art concomitantes.
Avec des séparations qui correspondent parfois aussi à des ruptures artistiques, à des ruptures dans la vie de l'artiste. On se retrouve à nouveau devant Max Ernst, le sculpteur cette fois-ci. Ce sont ces sculptures qui sont mises en avant et un amour qui est un amour pour lui plutôt de vieillesse par rapport aux premiers amours dont on a pu parler tout à l'heure.
Alors Max Ernst est toujours dans cette continuité de retrouver une femme qui soit à la fois une muse mais aussi une artiste, partager vraiment un monde, c'est quelque chose. Il y a cette très très belle citation où il dit: la sculpture se fait dans une embrassade à deux mains comme l'amour. Et toutes les sculptures qui ornaient la maison de Saint-Martin d'Ardèche qu'il partageait avec Leonora Carrington, beaucoup ont été détruites, ont été arrachées pendant la période où il était interné au camp des Milles. Et quand il rencontre Dorothea Tanning, il vient se réinventer avec elle un refuge. Ça n'est plus au fin fond de l'Ardèche, mais c'est au fin fond de l'Arizona, à Sedonia. Et là, toute la mémoire des sculptures qui ornaient la maison de Saint-Martin d'Ardèche, il va leur redonner vie. Il va les réinventer. On est face à cette magnifique sculpture de la collection du Centre Pompidou, le Capricorne, où on est face à un couple, un homme avec une tête de taureau, une femme sirène qui porte une sorte d'enfant poisson. Donc on est évidemment dans cet imaginaire de Max Ernst, mais la sculpture est omniprésente et c'est surtout l'idée de s'inventer un espace où l'art vient irriguer chaque brique de la maison qu'ils vont construire à quatre mains.
Merci Emma Lavigne pour cette visite. Je rappelle le nom de l'exposition, Couple moderne 1900-1950, que l'on peut admirer au Centre Pompidou-Metz jusqu'au 20 août et à partir du 10 octobre à la Barbican Art Gallery de Londres, à la réalisation Marie Placé, à la technique Jean-André Giannichini. Et de retour en studio, c'est l'heure du live de la grande table d'été. Aujourd'hui, on accueille Tim Dup. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous allez nous interpréter ?
Je vais vous interpréter une chanson qui s'appelle « Nous sommes ».
C'est parti. Vous allez pouvoir vous installer dans le studio de la grande table.
Nous sommes les fleurs, la tendresse des plus beaux printemps. Nous sommes le bonheur, l'ivresse, les rires d'enfants. Nous sommes l'amour, la douceur, innocent. Nous sommes les tableaux azur qui se penchent sur l'océan. Nous sommes la torche du vermeil que n'éteint pas le vent. Nous sommes les puits de lumière dans les plus noirs tourments. Nous sommes les hommes libres et les immenses soleils. La palette de couleurs, le gris, le bleu dans le ciel. Nous sommes les sourires et les visages qui abondent, qui se mêlent d'amour et repeuplent le monde. Dans leur plus belle différence, métissés de plus belle pour mieux vous faire offense. Nous sommes les plaines et les arbres millénaire qui jamais ne s'efface, auquel on confie ses prières. Nous sommes comme ces étoiles qui s'éteignent, dont la lumière nous parvient encore longtemps. Nous sommes comme ces étoiles qui s'éteignent, dont la lumière nous parvient encore longtemps.
C'était Tim Dup. Merci d'être venu jouer aujourd'hui en direct du studio de la Grande Table d'été. Vous serez en tournée dans toute la France à partir d'octobre et en concert à la salle Pleyel le 5 décembre prochain.
France Culture, la grande table d'été, par Maëlys Bessery.
Des enfants débraillés en couches qui déambulent librement, un pasteur à la barbe démesurée, un jeune couple souriant assis sur des pneus devant une caravane avachie. Voici les images de l'Amérique que nous donne à voir la photographe de l'exposition Rédemption aux rencontres de la photographie d'Arles. Celle d'un coin du sud à contre-courant, hors du système, d'un havre de paix dans le désert. Laura Hainaut, bonjour.
Bonjour.
On va commencer par écouter l'extrait d'un film, puisque c'est une exposition photo dans laquelle il y a aussi un film qui s'appelle Haven. On va en écouter un extrait.
Now, when we see these pictures in scripture of the people Jesus heals, every one of them in a different way is a picture of us outside of Christ. Last week we talked quite a bit about the leper. Amen. And if we could see with God's eyes, our sin would look as loathsome to us as though we had flesh dropping off of us and bones exposed. I really think that the zombie craze of the last 30 years or so comes from an intuitive knowledge, the Holy Spirit speaking to our souls that we're walking dead men outside of Christ.
Amen. that I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. I live by faith in the Son of God, who loved me.
Alors il y a du vent, il y a un prêche, il y a ce chant un peu faux, Laura Hainaut, que vous avez saisi avec votre caméra. Qu'est-ce que vous avez cherché à filmer à Slave City? On est donc dans le sud des États-Unis. Il faut que vous nous présentiez cet endroit.
Alors c'est un endroit qui est assez étonnant et assez fascinant puisque ses origines sont déjà très intéressantes. C'est un ancien camp militaire qui s'appelle le camp Dunlap, qui a servi de camp d'entraînement pour la Seconde Guerre mondiale et qui a été démantelé en 56. Et peu après son démantèlement, quelques militaires sont restés squatter là. Et ils ont été rejoints par des travailleurs itinérants, comme c'est un petit peu la tradition aux États-Unis d'avoir ces travailleurs qui vont de ville en ville pour faire des petits boublots et qui n'ont pas forcément d'endroit où loger. Et puis peu après, il y a eu, encouragé par la Beat Generation, les hippies, une vague, une population beaucoup plus empreinte de liberté. Et en fait, ce campement, puisque c'est comme ça que moi je le surnomme.
Il est fait de caravanes, il est fait
alors,
de différents types d'aménagements.
C'est déjà un no man's land au milieu du désert. Où seuls persistent les slabs, c'est-à-dire les dalles de béton qui ont servi de fondation au baraquement militaire et qui demeurent, qui sont les seules traces de ce passé militaire. Et Slab City est considéré comme le dernier territoire libre des États-Unis, dans le sens où on peut venir y vivre sans être devable de quoi que ce soit, sans
pas d'impôts,
payer.
Pas de taxes.
Tout à fait.
Pas de loyer, pas voilà. D'eau, pas d'électricité non plus, à l'exception
voilà.
De quelques panneaux solaires.
Alors qu'il faut soi-même installer. Parce que voilà, on n'est pas du tout dans un trailer park comme on en a beaucoup aux États-Unis. On est dans un endroit au milieu de nulle part et où les conditions de vie s'apparentent plutôt à de la survie puisqu'il faut assurer sa propre autonomie en électricité, soit avec des panneaux solaires ou des générateurs, avec des cuves d'eau pour avoir de l'eau qui n'est pas potable, mais au moins pour avoir de l'eau au quotidien. Et donc c'est un rapport à la vie qui est quand même assez difficile, dans le sens où cette gestion du quotidien n'est pas simple et on est dans le désert.
Et on est en Californie, on l'a pas encore dit,
on est en
Californie. Et on est dans un endroit qui est à la fois aujourd'hui, vous vous êtes installé, vous, pour faire votre travail, qui est à la fois un travail photographique et un travail cinématographique. Laura Hainaut, vous allez pouvoir nous expliquer. C'est d'ailleurs pas la première fois que vous faites un film dont vous tirez aussi des séries de photos.
Oui, complètement. En fait, là, j'y étais avant tout dans un premier temps pour faire des photographies. Et en repérage en vue de faire un film plus tard, d'y revenir. De toute façon, c'est un peu ma façon habituelle de travailler, c'est-à-dire que je reviens plusieurs années de suite aux mêmes endroits, puisque ce qui m'intéresse, c'est de suivre les personnages dans le temps, de vraiment saisir tous les enjeux d'un territoire, et en l'occurrence, celui de Slab City est extrêmement complexe. Et c'est pourquoi j'ai choisi de m'y installer aussi avec une vieille caravane que j'ai ramenée.
Vous êtes resté plusieurs mois, deux mois, c'était
en
2017.
Voilà, c'était il y a un an et demi. On devait rester à peu près trois semaines puisque l'idée c'était aussi de sillonner un petit peu les alentours puisqu'il n'y a pas que la population de Slab City qui m'intéresse, mais ses interactions avec la base militaire qui est toujours en activité. Et j'ai recruté une jeune femme extraordinaire qui s'appelle Annie Evers, avec qui j'ai fait équipe pendant deux mois, parce qu'au final, nous sommes restés deux mois à vivre dans notre caravane et à faire partie petit à petit de la communauté.
Alors la rencontre et la photographie, c'est en quelque sorte la même chose pour vous, puisque vous ne photographiez que des gens avec qui vous partagez quelque chose.
Oui, complètement. C'est-à-dire que mes photographies ou même mes films découlent de rencontres. Des rencontres qui sont importantes pour moi, avec des personnes qui se définissent au fur et à mesure des rencontres. Je selon les, on va dire, mon feeling... ce que je pense qu'ils peuvent incarner aussi au travers de leur récit, au travers de leur posture, de leur façon de vivre. Je propose à certains d'entre eux de collaborer avec moi sur des images photographiques ou filmiques.
Alors le sud que vous avez choisi de représenter, c'est un sud qui a déjà été beaucoup représenté dans l'univers de la photo. Alors il fallait aussi s'inscrire dans cet héritage-là, l'héritage de grands photographes, alors soit de photographes américains eux-mêmes, soit de photographes qui ont européens qui sont allés chercher ce sud des États-Unis. Je vous propose d'écouter Gilles Morin, historien et critique de la photographie. C'était sur France Culture le 4 juillet 1980.
Je crois que le sud profond, c'est d'abord une réalité mythologique, et l'Amérique vit comme ça par signes. Et le sud est un des signes les plus évidents de la mythologie américaine. Mais je crois qu'également dans l'Amérique, qui est actuellement en train de vivre une véritable résurrection de moralité, de surprotection, d'aseptie générale, le Sud représente un des derniers endroits, je le répète, où il y a encore une présence sensuelle vivante. La sensualité existe dans le Sud. Je dirais même la sexualité.
Vous pensez que ces photographies montrent un état de crise dans lequel nous nous retrouvons, nous nous reconnaissons ?
Non, je ne crois pas. Je pense que ce qui caractérise la photographie sudiste, comme la littérature sudiste, c'est une volonté d'intemporalité, de retour en arrière. Là aussi, le Sud, tout l'art du Sud, est un art qui résiste, qui s'arc-boute sur son passé et qui fait bloc contre tout ce qu'il pourrait y avoir de changement dans l'Amérique. De ce côté-là, la photo sudiste est totalement passéiste. Mais en ce sens-là, cette espèce de passéisme est également fascinant. C'est un passéisme qui est connu des artistes. C'est une espèce de pesanteur culturelle. Idéologiquement, c'est assez troublant d'ailleurs.
Laura Hainaut, idéologiquement, c'est assez troublant. Et c'est assez troublant aussi de retrouver, d'avoir en tête toutes ces images de photographes américains d'autres générations que la vôtre, qui ont représenté, dans ce dossier de presse, on parle de Dorothy Lange et de William Eggleston. On pourrait parler aussi de Walker Evans et de bien d'autres.
Complètement.
Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit? La mythologie du Sud, est-ce que c'était ça qui vous fascinait? Ou est-ce que c'est cette sorte d'enclave que vous avez trouvé, ce lieu qui est aux États-Unis, qui pourrait être peut-être ailleurs?
C'est surtout cette enclave parce que elle se trouve toujours intégrée à une base militaire actuelle qui est la dernière étape d'entraînement pour les Marines qui sont envoyés combattre dans les conflits du Moyen-Orient. Et donc la zone est complètement survolée par des avions de chasse, des tirs de lance-roquettes, de missiles, des hélicoptères. Le campement est traversé régulièrement par des convois militaires. Et je trouvais extrêmement intéressant de me retrouver sur un espace qui a vraiment des allures de bout du monde, où une partie de la population vient volontairement se mettre à l'écart du monde. Et au final, ils se retrouvent en lisière de ce qu'il se joue au niveau de la politique américaine, de sa politique militaire, de son ingérence aussi, parfois dans certains pays.
Donc ça se passe bien aux États-Unis, ça, vous n'auriez pas pu émettre cette critique, larvée, en tout cas insidieuse dans ces photos-là, en allant ailleurs qu'aux États-Unis, Laura Hainaut.
Oui, bien sûr, moi c'est cette proximité géopolitique, moi, qui m'intéresse. Dans tous les projets que j'aborde, il est question à la fois d'humain, mais aussi de géopolitique.
Alors, et de social, il y a une dimension sociale très forte dans votre travail. Vous avez travaillé sur les migrants, vous avez travaillé sur plusieurs types de populations. Et à chaque fois, il y a deux dimensions qu'on retrouve souvent. C'est celle des populations dont vous venez de parler et celle du territoire, de la géographie.
Complètement. au niveau des Comores, c'est vrai que, enfin, j'ai énormément travaillé entre les Comores et Mayotte. Je m'apprête à y retourner d'ailleurs pour filmer un film. Et c'est vrai que je m'attache à des personnages qui peuvent incarner, comment dire, une image des déplacements migratoires, mais surtout aussi de la place, en l'occurrence pour Mayotte, de la place de la France dans ses anciennes colonies, de aussi ce que le visa Balladur a amené comme conséquence au niveau de tous ces trajets qui sont devenus clandestins. Et il y a toujours, en effet, dans mes choix de territoire que j'aborde, un aspect géopolitique que j'ai envie de creuser. Et pour en revenir à Slab City, au moment où je préparais ce projet, Trump n'était pas encore dans la course aux élections. Par contre, j'ai pu entendre depuis ma caravane son discours que tous les slabeurs écoutaient, son discours au moment de son intronisation. Et sa première mesure a quand même été d'annoncer la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique. Et Slab City se trouve exactement à une heure de la frontière. Donc ça augure encore d'autres aspects que je suis amenée à traiter l'année prochaine, c'est-à-dire ces interactions avec le campement militaire, avec le camp, la base militaire, pardon. Et puis, donc c'est l'idée de travailler avec de jeunes militaires. Et je m'attendais pas, en arrivant à Slab City, de rencontrer de jeunes vétérans, notamment Michael, que j'ai photographié, qui est ce jeune homme assis avec Raven devant ce bus complètement dévasté. Et Michael a une histoire assez particulière déjà, alors qu'il avait que 26 ans. Il s'est engagé à 18 ans dans les Marines et il est parti combattre pendant 3 ans en Irak et en Afghanistan. Et à son retour, il a eu un vrai désir, enfin quelque chose d'extrêmement pulsionnel d'un retour à la liberté, d'être sur la route, de vivre tout à fait autrement, et sa vie aujourd'hui se fait sur la route. Il va de campement en campement, il fait des petits boulots quand il a un peu besoin d'argent, et il est totalement satisfait de cette vie qui s'apparente aussi à de la survie. Il aime ce rapport-là à un quotidien comme ça, qui se construit au jour le jour, qui se fait de rencontres.
Et on s'extrait aussi d'une forme d'image du matérialisme qui est toujours représenté à la fois dans la fiction, dans les séries, mais aussi
complètement
dans l'imaginaire que l'on a encore des États-Unis. Vous parliez de votre projet politique, il y a aussi une dimension religieuse qui apparaît dans ce projet, ne serait-ce que par son nom, Rédemption, de cette quête, de ce rachat du genre humain ou de cette nouvelle manière peut-être d'envisager la vie. Et d'ailleurs, l'extrait qu'on a entendu, c'était un pasteur qui prêchait et qui raconte justement une histoire de lèpre et comment les lépreux se rapprochent de Dieu. Il y a une histoire aussi autour de ça dans la photographie que vous faites.
Alors en fait, j'ai rencontré Pasteur Dave, qui est l'un des piliers de la communauté. Ça fait 17 ans qu'il est à Slab City. Slab City, c'est pas dans sa totalité une communauté religieuse. Il y a certaines personnes qui entourent Pasteur Dave et son Ministry of Church, qui est une espèce de tente qui utilise justement des anciens drapés militaires pour faire de l'ombre.
C'est ceux qu'on entendait battre dans
Exactement,
le vent.
Exactement, voilà. Et donc, Pasteur Dave a conçu une espèce de safe zone autour de lui, où peuvent vivre en tout cas les personnes qui ont vraiment besoin d'un soutien, que ce soit moral ou qui peuvent aussi se détacher de certaines addictions, puisque dans ce campement qu'est Slab City, il y a énormément de tentations. Il y a une circulation de drogues dures, d'alcool, qui est assez phénoménale. Tout le monde n'est pas addict, mais ceux qui veulent se protéger de ça peuvent trouver auprès du pasteur Dave un roc sur lequel s'appuyer. Et c'était pas du tout l'idée au départ en arrivant d'axer mon projet sur la religion, mais encore une fois, ce sont les rencontres et ce cheminement s'est fait par l'intermédiaire de Nicolas, qui est le jeune évangéliste qu'on suit pendant mon film Heaven.
C'est une sorte de fil conducteur, hein, ça démarre sur une prière, ce film-là.
Complètement, c'est-à-dire que Nicolas est arrivé peu de temps après nous à Slap City. Et puis, c'est un jeune homme qui est complètement investi de cette mission de porter la bonne parole, d'aider l'autre. Et c'est un personnage qui est complètement atypique et qui a l'air tout droit sorti des raisins de la colère, puisqu'il a une manière de parler de sa démarche, de s'habiller, qui est complètement intemporelle. Et Nicolas a entrepris cette idée complètement folle et magnifique de planter un potager sur une dalle de béton pour nourrir ceux qui en avaient besoin. Et cette idée d'implanter un jardin, déjà sur une dalle de béton et pas dans la terre, au milieu du désert, en sachant que au plus bas il fait minimum 30 degrés et l'été 50, avec très très peu d'eau puisque l'eau est quand même extrêmement rare, c'était un projet complètement utopique, mais que j'ai entrepris de suivre, de le filmer au quotidien en train de déblayer les anciens sanitaires du camp militaire. Et ce jardin, tout le monde s'est impliqué en lui apportant des petites graines, des boutures, de quoi faire pousser des légumes. Et quand j'y suis retournée au mois d'avril, là, dernièrement, j'ai eu la bonne surprise de manger des tomates cerises.
On a vu ces tomates pousser. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, Laura Hainaut, dans votre travail, que de mélanger justement l'image en mouvement et la photographie ? Comment est-ce que vous travaillez avec ces deux supports ? Parce que par moments, vous filmez des personnages immobiles, et à d'autres moments, vous prenez des photos dans lesquelles il y a une sorte, pas de mouvement, mais en tout cas, on peut imaginer ce qui se passe autour.
Pour moi, c'est une façon très différente d'aborder le corps et son rapport en mouvement. Depuis que je filme, ça m'a quand même libérée d'une façon d'appréhender ce corps dans l'espace, puisque j'ai longtemps travaillé à la chambre. Là, en l'occurrence, beaucoup de photos sont faites à la chambre. Et prendre une caméra, ça m'amène une fluidité, une spontanée, et quelque chose de... un rapport aux choses qui est voilà, dans une proximité certainement beaucoup plus forte. Et puis, il y a le travail du son. Il y a toute cette possibilité d'entendre les personnages parler,
d'entendre le vent,
d'entendre le vent,
chanter,
d'entendre les hélicos nous survoler, d'entendre les tirs de lance-roquettes la nuit,
d'entendre la police,
d'entendre la police. C'est vrai que le film Heaven, que j'ai terminé 2 jours avant l'ouverture des rencontres d'Arles, donc vraiment sur les chapeaux de roue, apporte voilà une dimension très très forte, qui a en tout cas beaucoup marqué le public, puisqu'on m'a beaucoup parlé du film, et on arrivait dans l'exposition, on découvrait ces personnages figés dans un instant, et puis on commençait à être attiré par la pièce du fond, par ses chants et ce sermon de Pasteur Dave, et on découvrait voilà ces personnages en mouvement et d'autres qui ne sont pas dans l'image.
Alors Arles, c'est un endroit important pour vous, Laura Hainaut, puisque c'est l'endroit où vous avez reçu le prix Découverte justement il y a un peu plus de 10 ans.
Tout à fait.
Et pour un autre projet qui était les premières photos que vous aviez faites sur l'adolescence, c'était Summer Crossing, encore une traversée, hein, une forme de traversée aussi. Comment est-ce que vous concevez votre travail ? Il y a à la fois un un côté extrêmement précis, documenté, très proche du quotidien et même de la dénonciation d'une certaine manière, puisque vous ne cachez pas une forme d'engagement politique dans votre travail. Et d'un autre côté, vos personnages sont très proches de la fiction, sont des personnages qui ne sont pas du tout photographiés ou imaginés comme on le ferait pour du photojournalisme.
Tout à fait. Moi, j'ai un rapport à l'image qui a longtemps été de l'ordre de la mise en scène, et dans un rapport fictionnel qui moi m'a toujours permis d'ouvrir l'image à d'autres possibles, à d'autres champs de l'image, que ce soit le cinéma, la peinture. Et c'est vrai que même si je me suis depuis 10 ans beaucoup plus rapprochée du réel et d'un ancrage documentaire, ma façon de faire de l'image est restée comme ça très parfois fictionnalisée, puisque avec mon travail sur les migrants à Calais, à l'île de la Réunion, j'ai collaboré avec eux dans des mises en scène qui portaient à l'image leur récit.
Alors racontez-nous ce que ça veut dire des mises en scène. C'est l'auto-mise en scène aussi, ou c'est vous qui les mettez en scène
C'est-à-dire
comment est-ce que se passe cette relation justement que vous avez avec les gens que vous photographiez, que vous connaissez un peu puisque vous avez établi des liens avec eux?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que l'étape de prise de vue arrive après plusieurs semaines de rencontres, de discussions sans faire d'image, et puis ensuite je propose aux personnes que j'ai envie de photographier une idée de scénario, qui va synthétiser à la fois un épisode de leur vie qu'ils m'ont raconté, mais qui va aussi pouvoir incarner un récit beaucoup plus collectif, puisqu'en l'occurrence quand on travaille avec des personnes constamment en déplacement qui viennent de loin, on a quand même beaucoup de points communs dans les récits.
Et les éléments, ils peuvent venir de petites choses qui justement introduisent une dimension personnel qui crée aussi la fiction individuelle. Je pense au serpent à sonnette que l'on voit aussi dans votre film, qui justement sont des éléments particuliers. Ce jardin sur une dalle de béton.
Oui, c'était des choses tout à fait incongrues, et quand le service dont vous avez passé un extrait, qui est quand même un peu le socle de ce film, a été le premier service que j'ai filmé de Pasteur Dave, et c'est là que j'ai fait donc la connaissance de Julie et sa fille Raven, qu'on voit avec leur serpent. Et évidemment, voir Julie lire la Bible, son serpent au cou, c'est assez étonnant. Et évidemment, les parallèles avec la Bible sont assez évidents. Et on retrouve de nouveau ce serpent dans la caravane de Raven, dans son aquarium, sur lequel est collé un autocollant pro-Trump.
Alors, est-ce que c'est pas ça, justement, le travail d'artiste que vous envisagez, cette traversée entre le monde réel et la vision fictionnelle que vous pouvez en avoir, et tout ce travail de transformation qui va se faire à travers des photos qui ressemblent parfois à des fresques, à des peintures, avec des lumières, avec justement des jeux qui vont permettre de passer à autre chose, quelque chose d'intemporel, quelque chose qui peut rester?
En l'occurrence, pour ce projet, la série qui s'appelle Outre-Monde, hein, l'exposition s'appelle Rédemption, mais la série s'appelle Outre-Monde, pour la première fois, il n'y a pas eu de mise en scène de ma part. C'est-à-dire que le fait de vivre vraiment parmi la population, de faire partie de ce quotidien, m'a amené aussi à faire la photographie différemment, à me libérer donc de cette scénarisation qui parfois qui pouvait devenir pesante pour moi. Et donc la plupart des scènes sont des scènes que j'ai photographiées, qui se passaient sur l'instant et que j'ai prélevées dans le réel. Pour ce projet, en fait, on a entendu Gilles Mora parler des photographes qui ont photographié beaucoup le Sud, et vous avez cité Dorothée Allonge, qui est en effet, en tout cas, un repère historique et documentaire sur ce projet, puisque lorsque j'ai fait, je me suis beaucoup documentée sur Slap City, je me suis rendu compte qu'elle avait précisément photographié la zone, c'est-à-dire Nyland, la ville qui est à 10 km de Slap City, qui est celle où l'on se ravitaille.
Donc c'est comme marcher dans ses pas.
Oui, évidemment.
Tout en racontant autre chose.
Mais de toute façon, il y a des vrais échos contemporains entre la situation des personnes qu'elle a photographiées pendant la Grande Dépression pour la FSA et ceux que j'ai photographiés aujourd'hui. Donc c'était dans ce parallèle et le fait de pointer que ces gens-là vivent toujours de la même façon. C'était pas juste pendant la Grande Dépression.
Merci Laura Hainaut d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle le nom de votre exposition, Rédemption, présentée à Arles, à la Commanderie Saint-Luce du 2 juillet au 26 août. C'est dans le cadre des rencontres de la photographie. Quant à nous, je vous donne rendez-vous à 12h45 demain pour une nouvelle grande table consacrée à Proust et à la musique en première partie, puis à faire le portrait de Sandra Nkake. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Julien Rosa, Arjuna Andrade, Louis Drion, Anne Toscane Viudès et Anna-Livia Marchaison. Réalisation Marie Placé, à la technique Alex Dang. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr.